va maintenant d'accueillir nos invités via Skype de Saint-Antoine à Maurice, Jean-Claude de Lestrac, ancien ministre mauricien des Affaires étrangères et ex-secrétaire général de la Commission de l'Océan Indien, de Dakar au Sénégal, Ibrahima Kane, analyste politique et un des membres fondateurs de la Radio Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, et de la République démocratique du Congo, Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'université de Lubumbashi. Jean-Claude de Lestrac, je commence par vous. Nous venons de le voir, Pravin Jugnauth, désormais ex-premier ministre de Maurice, a reconnu publiquement dès lundi, avant même la proclamation des résultats définitifs, que sa coalition allait vers une grande défaite. Peut-on interpréter cette démarche comme un acte de maturité politique et de respect des institutions, ou bien s'agit-il d'une tentative habile de sauver la face vu sa défaite écrasante, tout en préservant son image pour un éventuel retour futur sur la scène politique?
Un peu des deux probablement, mais Maurice a une longue tradition démocratique et d'alternance, hein. Le premier ministre qui vient de prêter serment a déjà été premier ministre dans le passé. Et on prend les mêmes et on recommence, mais dans une alternance démocratique. Il y a eu des moments dans notre histoire où il y a eu des tentations politiques de renvoyer les élections législatives. Et depuis 1982, fort d'une majorité absolue au Parlement, les deux partis victorieux, alors le MMM et le PSM, ont utilisé la majorité au Parlement pour faire voter une loi qui existe encore et qui, en clair, rend impossible le renvoi des élections. Sinon, il faudrait une majorité de 3/4, il faudrait un référendum. Techniquement, ça devient possible. Et depuis, donc, tous les 5 ans, nous avons régulièrement des élections et des alternances politiques. Alors, il faut dire à Maurice que ces alternances sont facilitées par le fait qu'en réalité, il y a peu de différences idéologiques entre les différents partis de gouvernement. Ils sont d'ailleurs souvent en coalition l'un avec l'autre, une fois dans telle coalition, la fois d'après dans l'autre coalition. On a déjà vu ce que nous voyons en ce moment, est une répétition de ce que nous avons déjà connu, une alliance parti-travailliste MMM. Mais le point clé, peut-être par rapport à la thématique de votre programme, c'est que l'ancien gouvernement, le gouvernement sortant, a été battu justement parce qu'on lui reproche un déficit de démocratie. C'est-à-dire que pendant les dernières années, il y a eu des tentatives de ce gouvernement, et des tentatives, pas que des tentatives, il y a eu des actions qui ont mené à la politisation des institutions, à des tentatives de réduire le pouvoir du judiciaire, parce que le fondement de la démocratie, c'est la séparation des pouvoirs entre le judiciaire, l'exécutif et les législatifs. L'ancien gouvernement a essayé de gommer tout ça. Il a cherché à prendre tous les pouvoirs, et c'est ce qui a été reproché principalement à ce gouvernement-là, d'avoir cherché à politiser la police, les institutions censées constitutionnellement être des institutions indépendantes. Tout ça a été politisé. Il a nommé à la tête de ces institutions des gens proches de lui. Et vraiment, la population n'a pas accepté ça. C'est ce déficit de démocratie qui est la cause principale de la défaite de ce gouvernement.
Nous voyons. Ibrahima Kane, au Botswana, la transition pacifique entre Mokwetsi Masisi et Duma Boko est saluée comme un modèle, mais dans un continent marqué par des alternances souvent chaotiques, ne risque-t-on pas d'ériger ce cas en exception qui ne reflète en rien la réalité politique plus globale de l'Afrique? Peut-on vraiment parler d'un modèle, allons dire, exportable?
Tout à fait, parce que l'exemple du Botswana est quand même illustratif de comment un gouvernement qui est connu de l'extérieur comme étant un gouvernement démocratique, un État démocratique sans problème, peut en réalité installer un système qui est un système atypique. Je m'explique. Le Botswana va célébrer dans 2 ans les 60 ans de son indépendance. Pendant 58 ans, c'est le même parti politique qui a géré le pays, sans accepter vraiment une opposition forte et qui a vraiment mené d'une main de fer la gestion des affaires de ce pays. Deuxième réalité du Botswana, c'est l'un des pays africains où le président en exercice a toujours choisi son successeur. On est même arrivé au Botswana à ce que le fils du père fondateur de la République soit lui aussi un président, parce que c'était un ami de son père qui avait succédé à son père et qui a voulu retourner la donne à son père. Donc voilà un système qui était complètement organisé autour d'un parti politique avec des règles qui étaient à l'opposé total de ce que la démocratie peut accepter. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est arrivé à une fin de cycle de gestion unique d'un parti, mais aussi de cette façon d'assurer la succession à la tête de l'État. Et c'est en cela que je pense que le Botswana offre aujourd'hui, surtout en Afrique australe, l'image d'un pays qui commence à tourner le dos à ces partis qui sont centenaires, si je puis dire, en passant à l'ANC, en passant aux ZANU-PF et autres, et même à la SWAPO, montrer que les choses vont changer et que ces partis-là doivent se préparer au changement. Pour moi, c'est l'une des leçons que l'on doit retirer de ce changement à la tête du pouvoir au Botswana.
Frédéric Amani, partagez-vous l'avis de ces observateurs qui trouvent qu'en Afrique, mais aussi ailleurs dans le monde, les alternances politiques pacifiques restent souvent l'exception plutôt que la règle? Qu'est-ce qui empêche les dirigeants de quitter le pouvoir une fois leur mandat terminé, malgré les garanties constitutionnelles? Brièvement, si vous pouvez.
Oui, d'abord, il faut montrer qu'une particularité, les transitions démocratiques semblent bien marcher en Afrique anglophone, alors qu'en Afrique francophone, à quelques exceptions près, le Sénégal notamment, en Afrique francophone, on sent que la transition démocratique semble, n'est-ce pas, patauger, et que la plupart des dirigeants africains qui ne veulent pas quitter les pouvoirs, c'est par rapport au bilan mitigé ou à l'air échec de la gestion des affaires publiques. Un autre élément, je pense qu'il y a la vie après la présidence. Pourquoi il y a la peur de la plupart des dirigeants africains de ne pas vouloir quitter les pouvoirs? C'est par rapport, n'est-ce pas, ce que je veux dire, à une sorte de gestion chaotique qu'ils ont, n'est-ce pas, mener leur pays, eh ben, ils craignent le retournement des situations, c'est-à-dire la chasse à la sorcière en quelque sorte, où après le pouvoir, ils risquent d'être traqués par le régime qui va le succéder. Et je crois que ça, c'est un problème. Pourtant, la plupart des constitutions africaines règlent cette question où il y a les anciens présidents qui jouissent des immunités ou des privilèges pour qu'ils ne répondent pas de leurs actes. Ce n'est pas encourager l'impunité, mais c'est dans la mesure où on veut promouvoir la démocratie, laquelle démocratie va contribuer au progrès du continent ou au développement de leur nation.
Jean-Claude de Lestrac, la République mauricienne n'a connu que quelques familles à la tête de son gouvernement depuis son indépendance du Royaume-Uni en 1968. Les Ramgoulam, les Jacknot, les Duval, les Boulel, les Béranger. Donc, après une décennie d'absence, Navin Ramgoulam revient au pouvoir à 77 ans. S'agit-il réellement d'un renouveau alors que ce retour au sommet est entaché par des accusations de corruption et des scandales passés? Est-ce une preuve de la maturité démocratique de votre pays ou un aveu que les vieilles dynasties demeurent indéboulonnables? Brièvement, Jean-Claude.
Je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de dynastie. Parce que Navin Ramgoulam, par exemple, s'est intéressé à la politique. Contrairement au vœu de son père, et bien plus tard, il n'a pas hérité du pouvoir directement de son père. Son père n'était plus là, n'était plus aux affaires quand lui-même est revenu et a tenté de reprendre le parti pour revenir au pouvoir. Les choses sont un peu différentes pour Pravin Jagnat, qui a hérité un peu du parti de son père, c'est vrai, mais il a fallu ensuite, par la suite, qu'il se présente au Parlement et qu'il fasse la démonstration qu'il a une majorité parlementaire de son parti le soutient. En fait, la définition, nous avons, contrairement à la plupart de nos pays d'Afrique, le système mauricien n'est pas un système présidentiel, c'est un système parlementaire basé sur le modèle britannique, sur le modèle Westminster. Alors ce Premier ministre, il n'est pas élu Premier ministre, c'est un élu comme un autre dans une circonscription. Ensuite, il se présente au Parlement et il fait la démonstration qu'il a le soutien d'une majorité de parlementaires. Au fait, notre Constitution dit clairement que le Premier ministre, c'est celui qui commande a majority in the House. Donc il faut qu'il fasse ça. Et il a fait cette démonstration. Même si au départ, il a été choisi pas son père pour diriger le parti, mais au Parlement, il a fallu qu'il se présente et obtienne un soutien parlementaire. Alors, notre système est très différent de tout ce qui du débat en Afrique. Et en fait, le reproche principal, ce vote politique fantastique, parce que l'Alliance du changement obtient pratiquement 66% des suffrages dans une élection qui a été totalement libre et transparente, mais le débat principal a été que l'ancien président, l'ancien Premier ministre, pardon, s'est montré plus autocratique que démocratique. Il a voulu verrouiller les institutions de l'État qui prévoit, selon le système Westminster, des checks and balances, la séparation nette et claire des pouvoirs. Il a fait le contraire. Il s'est comporté comme un autocrate et il a été sévèrement puni par l'électeur de ce point de vue.
Oui, Jean-Claude, il faut quand même rappeler que l'ancien Premier ministre mauricien a toujours rejeté ces accusations d'autocratie. Ibrahima Kane, le Botswana se targue d'être la plus ancienne démocratie d'Afrique australe, mais avec une économie encore extrêmement dépendante des diamants. À quel point cette démocratie est-elle solide, surtout si les ressources naturelles venaient à s'épuiser? Est-ce là un mirage démocratique maintenu artificiellement, si je puis le dire? Ibrahima Kane, je ne sais pas si vous m'entendez, vous êtes en ligne.
Oui, je vous entends. Oui, c'est vrai, je suis là.
Allez-y, en nouveau.
Je disais que le Botswana en tant que pays, surtout les communautés qui ont qui ont habité le territoire du Botswana, c'était des communautés très démocratiques. La Khotla, je ne sais pas si vous le savez, cette pratique-là qui consistait à mettre en place pour les leaders d'organiser une journée pendant laquelle les populations venaient et critiquaient sa pratique, c'est au Botswana que c'est né. L'espace d'interpellation démocratique que les Maliens ont créé avec Alpha Omar Konaré, c'est né de cette idée de Khotla au Botswana. Donc c'est pas un pays fondamentalement autocratique, c'est un pays où les règles de la démocratie ont toujours existé. Seulement, c'était devenu aussi un système qui était en place pour profiter à une classe particulière, à une élite particulière. Et l'élection de ces jours-ci a mis un terme à la mainmise de cette élite sur le pouvoir. Pour la première fois dans l'histoire de ce pays, ce n'est pas un parti qui va gérer, c'est une coalition qui va gérer. Et en plus de cette coalition, mais c'est des jeunes qui sont venus au pouvoir pour prendre la place de ces vieillards-là qui ont géré le pays depuis l'indépendance. Donc vous voyez qu'il y a une sorte de shift, il y a une sorte de changement qui traduit la volonté de cette population de ne plus faire reposer l'existence du pays sur des rentes comme la rente de la viande ou bien la rente du diamant, mais c'est d'organiser l'économie du pays en prenant en compte les nouvelles réalités du monde et aussi les nouvelles réalités de la région. Donc pour moi, ce qui se passe au Botswana est vraiment intéressant en ce sens que maintenant on va vers un système où la majorité de la population, les jeunes, va vraiment peser de tout son poids pour réorganiser le système politique, réorganiser la société et faire évoluer cette société afin qu'elle s'adapte aux nouvelles réalités du moment. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très intéressant qui est en train de se produire dans ce pays.
Ouais, je crois que certains d'entre eux vous diraient qu'ils ne sont pas vieillards. Mais bon, tournons-nous vers le Libéria, où comme nous le rappelait ma collègue Dilidiko tout à l'heure, George Weah a accepté sa défaite face à son rival Joseph Boakai, après une campagne électorale tendue. Ce pays qui a connu guerre civile et dictature par le passé est vu aujourd'hui comme prêt à faire preuve de maturité démocratique. Mais Frédéric Amarly, malheureusement, le temps file trop vite, je dirais. Cette alternance est-elle le signe d'un réel progrès ou simplement une façade pour apaiser la communauté internationale ?
Bien, je crois que même mille pas, mille kilomètres commencent toujours par un pas. Je crois que l'ensemble du continent, la plupart, la jeunesse africaine, aspire au changement. Et je crois que c'est un signe de changement, cette alternance. Faudrait-il alors l'appuyer et ne pas gâcher sur les efforts qui sont en train d'être fournis par les pays qui montrent l'exemple, notamment l'île Maurice, le Botswana, le Sénégal et bien d'autres. Je crois qu'il faut appuyer. C'est ici l'occasion d'inviter la communauté internationale ou les partenaires de l'Afrique d'appuyer les démocraties africaines pour qu'elles aillent jusqu'au bout. On a tendance à commencer une chose bien et au milieu des chemins, ça capote. Je pense que ce n'est pas une façon de montrer seulement, ce n'est pas une alternance de façade, mais je crois que c'est une volonté d'aspirer au changement que le peuple africain aspire, auquel le peuple africain aspire, et je pense que c'est très important. L'Afrique a besoin d'un changement qualitatif et significatif au niveau interne, et lequel changement va permettre à ce que l'Afrique, avec tout ce qu'elle a comme potentialité, puisse aller de l'avant, émerger, se développer, parce qu'on ne le dit pas assez, la problématique des démocraties en Afrique serait aussi l'une des causes de son sous-développement.
S'il vous plaît, messieurs, les invités, n'allez nulle part ailleurs, vous non plus, chers amis fidèles de la VOA, la suite du Washington Forum, ce sera après cette courte pause. Merci.
Full B, votre nouvelle émission tous les vendredis de 16h30 à 17h temps universel sur VOA Full B.
Dans des Full B, braque ses projecteurs sur les jeunes, leurs ambitions, leurs projets, leurs défis.
Dans des Full B, c'est aussi la vie de la communauté Peul, sa culture, son identité, sa résilience et son avenir dans un monde qui change.
Restez connectés et découvrez toutes les facettes de cette vaste communauté, riche par sa diversité.
Dans des Full B en FM, ondes courtes, sur la fréquence 17 630 kHz, sur nos réseaux sociaux et à travers nos stations partenaires en Afrique.
Dans des Full B de 16h30 à 17h temps universel sur VOA Full Day.
Aristide, de retour avec vous dans Washington Forum, édition du jeudi 14 2024. Il est question dans ce numéro de la transition pacifique du pouvoir à travers des élections libres et transparentes. Alors que de nombreuses nations continuent de lutter contre des régimes autoritaires et des processus électoraux contestés, trois pays africains, le Botswana, le Libéria et Maurice, se démarquent en offrant au monde des exemples de transition démocratique réussi. Je vous propose maintenant trois commentaires à Facebook. Archiduc Théodore de Djamena au Tchad. L'alternance démocratique est une bonne leçon à apprendre par de nombreuses nations africaines où des élections finissent par trucage, violence ou non-reconnaissance des résultats. Le Sénégal, le Botswana, l'île Maurice, la Gambie et l'Afrique du Sud sont les modèles véritables de l'alternance démocratique en Afrique. Yao Marcelin Kofi d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Les élections riment avec violence dans la plupart des pays africains. L'île Maurice et le Botswana qui viennent de démontrer leur maturité démocratique à travers des élections pacifiques doivent inspirer les autres États à tourner le dos aux crises post-électorales. Et Alphonse Mbouaki de Kinshasa en RD Congo. L'alternance démocratique demeure un défi, une volonté politique, une intériorisation de cette culture dans la conscience des politiques de l'Afrique et surtout dans les pays où règnent les turbulences et les violences lors des élections. Voilà pour ces commentaires Facebook. Sans plus tarder, nous retrouvons nos invités, trois excellents invités, si je peux me permettre de le dire, en direct de Saint-Antoine à Maurice, Jean-Claude de Lestrac, ancien ministre mauricien des Affaires étrangères et ex-secrétaire général de la Commission de l'Océan Indien, de Dakar au Sénégal, Ibrahima Khan, analyste politique, également un des membres fondateurs de la RADO, Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, et de la République démocratique du Congo, Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'université de Lubumbashi. Jean-Claude de Lestrac, Maurice a longtemps été présenté comme un modèle de stabilité, de prospérité et de démocratie en Afrique, mais avec des accusations récurrentes de corruption, de népotisme et de manipulation des institutions. Pensez-vous qu'il est temps de repenser cette image trop lisse? Votre île est-elle encore le modèle que vous, les Mauriciens, aimez à projeter sur le continent rapidement, si vous pouvez?
Je pense. C'est ce que la population mauricienne vient de faire, rétablir la dignité des Mauriciens, le respect de la démocratie, leur attachement aux principes démocratiques. Je vous l'ai dit, ce gouvernement a perdu les élections parce qu'il est apparu de plus en plus comme un gouvernement corrompu, qui pratique le népotisme, qui s'éloigne des principes démocratiques, et il a été puni pour cela. Et donc c'est la population qui est en train de rétablir la dignité et démontrer l'attachement de Maurice au principe démocratique. Maintenant, nous allons suivre de près. Je pense que la population sera extrêmement vigilante sur les promesses qui ont été faites par l'Alliance du changement. Elle a intérêt à respecter ses engagements.
Oui. Ibrahima Khan, un mot rapide sur les États-Unis. Le président sortant Joe Biden a reçu le président élu Donald Trump à la Maison-Blanche hier, après la victoire éclatante du républicain à la présidentielle du 5 novembre. Le ton était courtois. Les deux hommes ont évoqué une transition fluide. Le démocrate Biden avait déjà promis un transfert pacifique et ordonné du pouvoir avec Donald Trump. Comment interprétez-vous les déclarations de Joe Biden? Sont-elles un simple rappel des valeurs démocratiques ou une critique voilée en lien avec les événements du 6 janvier 2021? Rapidement, je suis vraiment désolé.
Oui, tout à fait. Mais c'est vraiment, je pense, une leçon de démocratie qu'il a voulu donner au président entrant, d'autant plus que celui-ci avait même refusé de transférer le pouvoir à son successeur. Et je pense que en le faisant, surtout dans le bureau ovale, en lui parlant de cette façon-là, il lui montre qu'un État a des règles et ces règles-là doivent être acceptées et appliquées par tout le monde.
Frédéric Amani, en Afrique, on constate souvent que des leaders portés au pouvoir par des promesses de changement finissent par se transformer en gardiens du statu quo. Les dirigeants de ces pays dont nous parlons, Botswana, Maurice, Libéria, peuvent-ils échapper à cette règle ou sont-ils condamnés à être victimes des mêmes dérives? Vous entendez le générique en deux mots.
Je crois que les dirigeants, nous félicitons le peuple mauricien, botswanais et libérien qui ont montré l'exemple. Exactement. Et leurs leaders, ils ont montré la maturité démocratique et nous souhaitons que d'autres dirigeants puissent emboîter les pas.
Pour... Malheureusement, le temps file. Point final à ce Washington Forum. Un grand merci à nos invités, Jean-Claude Delestraque, Ibrahim Akan, Frédéric Amani. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à toutes nos radios et télépartenaires. Et bien évidemment, un grand merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous cette semaine. Un nouveau rendez-vous dès jeudi prochain. Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.